Les mystères du Palais Royal, sixième partie. Chapitre 31. Effraction et escalade. Le projet de Raoul était simple. Peut-être n'offrait-il pas de grandes chances de succès, mais enfin, c'était une branche à laquelle le jeune homme se raccrochait au milieu du naufrage de ses espérances. Il voulait se rendre au vieux manoir de la Baume, que nos lecteurs connaissent sous le nom de Château des Fantômes et de Château Maudit. Là, il convoquerait le banc et l'arrière-banc de ses complices, les faux monnayeurs, et leur parlant avec cette autorité suprême à lui transmise par la pauvre reine Émeraude, il les lancerait dans Paris, avec la mission de prodiguer l'or et avec la promesse d'une énorme récompense à qui trouverait les traces de Jeanne disparue. Presque tous les faux monnayeurs étaient des bandits émérites, que d'anciens hauts faits avaient mis en bonne relation avec les agents subalternes de la police, agents recrutés à cette époque parmi les malfaiteurs intelligents, qui, en faisant leur soumission, achetaient l'impunité de leurs crimes passés au prix des services qu'ils pouvaient rendre. Grâce au concours de tous ces hommes, concours qui serait actif puisqu'il serait chèrement payé, il n'était véritablement point impossible de parvenir à mettre la main sur l'extrémité de ce fil d'Ariane vainement cherché jusque-là. Jacques, mis au fait de ce projet par son maître, trouva que l'idée était bonne. Cependant, les deux cavaliers étaient sortis de Paris au grand trot de leur monture. Ils avaient dépassé Nanterre, ils avaient traversé Rueil endormi. Ils avaient laissé derrière eux ce château presque royal sur lequel planait encore l'ombre terrible et toute-puissante du grand cardinal. Ils passaient devant cette forêt qui devait faire place un jour au parc de la Malmaison. La Malmaison, demeure de cette bonne et charmante impératrice qui n'a laissé que de doux et touchants souvenirs. Ils atteignaient Bougival, qui ne mirait point alors dans les eaux calmes de la Seine tant de gracieuses et coquettes villas. Jusqu'au moment où furent dépassées les dernières maisons de ce village, Raoul avait maintenu son cheval à une allure égale et rapide. Mais alors, il appuya sur la bride et l'animal, docile, ralentit aussitôt son pas. Jacques, qui tenait sa monture à une distance respectueuse, supposant que son maître voulait lui parler, fit entendre un « hop » sonore et se trouva en une ou deux secondes à côté de lui. « Mon ami, » lui dit Raoul en s'arrêtant tout à fait, « ne connaîtrais-tu pas un chemin qui puisse nous conduire à Saint-Germain sans continuer à suivre cette route ?»« Non, monsieur le chevalier, » répondit Jacques, « je n'en connais pas. »« Tant pis, » murmura Raoul. « Monsieur le chevalier, me permet-il de lui demander pour quel motif il désire changer de direction ?»« Ne comprends-tu donc pas ?» dit le jeune homme d'une voix basse et lente. « Ne comprends-tu donc pas qu'en passant devant le petit Chastel, devant la maison de Jeanne, mon cœur va se briser ?»« Du courage, mon pauvre maître, du courage !» balbutia Jacques. « Rien n'est perdu, rien n'est désespéré. Vous reverrez madame. »« Le crois-tu donc véritablement ?»« Oui, monsieur le chevalier, oui, je le crois. Oui, j'en suis sûr !» répliqua Jacques, faisant ainsi parade d'une confiance qu'au fond, il était loin d'éprouver. « Que Dieu t'entende, » dit Raoul. « Passons devant cette maison, puisqu'il le faut, mais passons vite, car en vérité, je me sens faible, comme un enfant. » Et, approchant ses deux éperons des flancs de son cheval, il l'embarqua au plus impétueux galop. De Bougival à cet endroit, qui s'appelle aujourd'hui le Bras Prunet, et où se trouvait alors le petit Chastel, la distance est courte. La monture de Raoul dévorait l'espace, comme le coursier fantastique de la balade de Burger. Au bout de quelques minutes, la maison des Chambards apparaissait comme une masse plus sombre au milieu des profondes ténèbres d'une nuit sans lune. Pour la seconde fois, Raoul ensanglanta avec les molettes de ses éperons les flancs de son cheval et voulut passer en détournant la tête. Mais une invincible attraction, plus forte que sa volonté, attachait ses yeux sur la façade de cette demeure dont il avait payé jadis l'hospitalité par une lâche trahison. Soudain, il poussa un cri sourd. Et, comme les chefs arabes dans leurs étranges fantasias, il arrêta net l'élan furieux de son cheval, qui bondit de côté, manqua des quatre jambes et tomba. Raoul se dégagea rapidement des étriers, laissa sa monture à l'abandon et s'élança vers la porte du petit Chastel. Jacques, qui, moins bien monté, arrivait seulement et qui se demandait si un accès de véritable folie venait de s'emparer de son maître, leva à son tour les yeux sur la maison et à son tour poussa un cri. C'est qu'une faible lumière brillait à l'une des croisées du premier étage, derrière les petits carreaux sertis de plomb de cette pièce qui avait été la chambre virginale de Jeanne de Chambard. Or, qui donc, excepté Jeanne elle-même, pouvait se trouver dans cette maison et dans cette chambre en ce moment et à cette heure? Raoul, nous l'avons dit, s'était élancé vers la porte. Il s'arrêta, semblant hésiter sur ce qu'il avait à faire. Jacques, qui venait d'attacher à une branche d'arbre les brides des deux chevaux, rejoignit son maître et lui demanda tout bas. « Monsieur le chevalier, faut-il frapper ?»« Gardons-nous-en bien, » répondit Raoul du même ton. « Si Jeanne est là, si elle ne veut pas me voir, et si elle se doute que j'arrive, elle s'enfuira, et je la perdrai de nouveau. »« Comment donc faire ?»« Entrer sans qu'on nous ait ouvert. » »« C'est presque impossible. » « Rien n'est impossible quand on sait vouloir. »« Mais, monsieur le chevalier, cette porte est en bois de chêne. Elle est massive et garnie de clous énormes. Elle défierait un assaut. » »« Essayons de démonter la serrure. » »« Les vis sont en dedans et n'offrent de ce côté aucune prise. » Raoul, forcé de convenir que Jacques avait raison, réfléchit pendant une minute. « Eh bien, dit-il ensuite, si nous ne pouvons entrer par devant, nous arriverons par derrière. » Et suivi de Jacques, il fit rapidement le tour de l'enclos assez vaste qui s'étendait au loin de l'autre côté de la maison. Cet enclos était défendu par une muraille élevée, qu'il ne fallait point songer à escalader sans corde et sans échelle. Mais dans cette muraille se trouvait pratiquée une petite porte, donnant accès dans la campagne, et c'était sur cette porte que comptait Raoul. Elle était fermée en dedans, mais son bois mince et déjà vermoulu n'offrait qu'une médiocre résistance. Et d'ailleurs, le bruit des tentatives qu'on ferait contre elle ne pouvait arriver jusqu'à la maison. Raoul, qui d'une seule main l'ébranlait sans peine, dit à Jacques de lui procurer deux morceaux de bois. Jacques se mit immédiatement à l'œuvre, et en quatre coups de sa gigantesque rapière, il coupa deux jeunes arbres dans la haie voisine. L'extrémité des deux petits arbres fut introduite entre le seuil de pierre et les planches inférieures. Raoul et Jacques pesèrent avec ensemble. Le bois craqua, la serrure cria, les gonds ébranlés gémirent, la porte oscilla pendant une seconde, puis tomba sur la terre humide. Le maître et le valet étaient dans l'enclos, mais ils n'étaient pas encore dans la maison. Une difficulté plus grande que celle dont ils venaient de triompher se présentait. Heureusement, Jacques se souvint qu'en rôdant dans l'enclos, à l'époque où le chevalier, blessé et presque mourant, se trouvait au petit Chastel, il avait vu de longues échelles sous un hangar. Il s'orienta, chercha le hangar, le trouva sans peine et revint apportant une échelle qui atteignait et même dépassait les fenêtres du premier étage. « Je vais monter, » dit alors Raoul. « Je briserai un carreau. J'ouvrirai la fenêtre, et quelle que soit l'épouvante que j'inspire à Jeanne, si c'est bien Jeanne en effet qui se trouve dans cette maison, elle n'aura pas le temps de fuir, puisque je me trouverai au même étage que sa chambre. « Mais, monsieur le chevalier, » hasarda Jacques, « madame croira certainement que ce sont des bandits qui viennent l'assaillir. » « Tant mieux. »« Ah ? » fit Jacques, très étonné. « Et sans doute, » reprit Raoul, si profond que soit l'effroi et la haine que j'inspire à Jeanne, elle aimera toujours mieux voir apparaître mon visage que celui d'un voleur ou d'un assassin. « Je ne pensais pas à cela, » répondit Jacques. « Et monsieur le chevalier a raison. Je vais tenir l'échelle. » Raoul se débarrassa de ses moustaches postiches qu'il avait conservées et qui, sans le métamorphoser entièrement, changeaient cependant beaucoup sa figure. Cela fait, il gravit rapidement l'échelle. Il enveloppa son poignet dans son mouchoir de poche pour enfoncer un carreau sans se couper au débris du verre. Par un bonheur inouï, le carreau, mal scellé dans son alvéole de plomb, céda sans se briser et par conséquent sans faire de bruit. Raoul le prit et le jeta dans le jardin. Passant ensuite son bras dans l'ouverture qu'il venait de pratiquer, il ouvrit la croisée et, enjambant lestement la pluie, il se trouva dans l'intérieur de la maison, dans une pièce qu'il savait encombrée d'objets de rebut et de meubles sans destination. Les ténèbres du dehors étaient épaisses, nous l'avons dit, mais le regard s'y accoutumait peu à peu. Quant aux ténèbres de l'intérieur, nous ne saurions les comparer qu'à celles d'un four ou d'une caverne. Raoul n'avait donc pour se guider que ses souvenirs, très imparfaits d'ailleurs, de la distribution des pièces du premier étage. Il n'ignorait pas que la pièce dans laquelle il se trouvait avait une porte sur un couloir qui coupait la maison en deux parties égales. Une des portes de ce couloir ouvrait la chambre de feu Madame de Chambard, chambre par laquelle il fallait passer pour arriver à celle de Jeanne. Il savait cela, répétons-nous, mais il ne se rendait compte que d'une façon extrêmement vague de la situation de ces diverses ouvertures. Et cependant, quoi qu'il en eût dit à Jacques, il tenait beaucoup à ne produire aucun bruit qui pût épouvanter la jeune femme et lui faire croire à quelque effrayante agression nocturne. Il se dirigea donc à tâtons, les mains étendues et suivant de son mieux la muraille. Il ne tarda guère à arriver à la porte qui donnait sur le couloir et qui n'était fermée qu'aux peines. Une fois dans le couloir, suivant toujours le mur qui lui servait de guide et d'appui, et étouffant le bruit de ses pas, il atteignit l'entrée de la chambre de Madeleine de Chambard. La porte n'était pas fermée. Il pénétra dans cette pièce. En face de lui devait se trouver la chambre de Jeanne. Raoul s'arrêta pendant un instant. Au milieu de l'obscurité compacte qui l'enveloppait, une faible raie lumineuse, dessinant la ligne inférieure de la porte qui se trouvait vis-à-vis de lui, indiquait que derrière cette porte devait se trouver l'objet de ses recherches. Tout à coup, Raoul tressaillit, se retourna brusquement et promena autour de lui un regard effaré qui cherchait à percer les ténèbres insondables. Il lui semblait qu'il n'était plus seul. Il lui semblait que quelqu'un se trouvait près de lui. Un bruit bizarre, régulier, monotone, semblable au martèlement cadencé du balancier d'une horloge de village, frappait son oreille et semblait grandir de seconde en seconde. Raoul fit deux pas en avant. Le bruit le suivit. Raoul recula. Le bruit parut reculer en même temps que lui. Certes, Raoul était brave. Eh bien, en ce moment, un petit frisson courut dans ses cheveux et quelques gouttes de sueur froide perlèrent à ses tempes. Il s'attendait presque à voir surgir en face de lui l'un de ces spectres dont il avait si souvent, en lui-même, raillé les fantasmagoriques évocations. Il s'attendait à ce que la forme pâle et sanglante de Madeleine de Chambard allait se dresser entre lui et la porte de Jeanne. Mais il ne vit rien, rien que les ténèbres, et il se prit à sourire, d'un sourire involontaire et dédaigneux, en découvrant quel était ce bruit qui l'avait épouvanté. C'était celui des battements sourds et impétueux de son cœur. « Allons, » se dit Raoul, « du courage !» Et il ouvrit la dernière porte. Mais à peine en avait-il franchi le seuil qu'il s'arrêta en joignant les mains et en poussant un cri d'angoisse. Raoul ne s'était pas trompé. Il retrouvait Jeanne. Jeanne était là, à quelques pas de lui. Mais était-elle vivante ? Chapitre 32 Vivante ou morte ? Dans la chambre, faiblement éclairée par la lueur d'une petite lampe de cuivre placée sur un antique bahut, sur le lit de chêne noir aux lourds rideaux de lampes à sombre, la jeune femme, étendue, paraissait endormie ou morte. Avant de se coucher sur ce lit, elle avait revêtu l'une de ses parures de vierge. Une robe blanche, sans ornement. Son visage était pâle, à ce point de pouvoir lutter avec la blancheur mate de la robe. Les longs cils de ses paupières abaissées faisaient ombre sur ses joues, qu'encadraient les masses dorées de ses longs cheveux. Ses deux petites mains, qu'on eût dit taillées dans l'albâtre le plus pur, tant elles étaient incolores, se croisaient chastement sur sa poitrine. Ainsi posée dans cette attitude sculpturale, avec sa robe qui s'étendait en longs plis depuis son cou jusqu'à ses pieds, avec ses mains jointes, avec cette blancheur marmoréenne de sa chair et de ses vêtements, Jeanne de Chambard ressemblait à s'y méprendre à l'une de ces statues que nos ancêtres couchaient sur les tombes des jeunes reines mortes à 20 ans dont ils voulaient éterniser les traits. Raoul sentit un voile de pleurs s'abaisser entre ses regards et cette couche funèbre. Des sanglots montèrent de son cœur à ses lèvres. Il tomba à genoux, et se traînant jusqu'au chevet du lit, il saisit une des mains de Jeanne. Cette main était tiède, mais on sentait qu'elle allait se refroidir. Jeanne était vivante encore. Cependant, on comprenait qu'elle allait mourir. « Oh, ma bien-aimée, ma bien-aimée !» murmura Raoul. « Si tu t'en vas de ce monde, je vais te suivre. » Jeanne fit un mouvement et ouvrit les yeux. Dans le regard qu'elle attacha sur Raoul, il n'y avait pas de colère. « Mon ami, » dit-elle d'une voix si faible qu'il fallait le profond silence de la nuit pour la rendre distincte. « Je suis heureuse que vous soyez venu. Au moins je puis vous dire que je vous pardonne du fond de mon cœur et je ne me souviens plus du mal que vous m'avez fait. Et puis, grâce à vous, n'est-ce pas, mon pauvre corps reposera en terre sainte. « Mais tu ne mourras pas !» s'écria Raoul. « Je ne veux pas que tu meures !» Un sourire doux et triste vint aux lèvres de Jeanne. « Je ne veux pas vivre, » dit-elle. « Pourquoi ne veux-tu pas vivre? Tu ne m'aimes donc plus ?»« C'est parce que je vous aime encore, mon ami, qu'il faut que je meure. »« Quoi? Tu m'aimes et tu veux mourir ?»« Je n'ai pas le droit de vous aimer, Raoul. Je ne suis pas votre femme. Je suis une malheureuse fille déshonorée, à qui vous ne pouvez pas rendre l'honneur. Ma place n'est plus dans ce monde. Elle est auprès de Dieu, qui me pardonnera peut-être le crime involontaire de ma vie et le crime volontaire de ma mort. Jeanne, au nom de ce Dieu en qui tu espères et en qui je crois, ne parle pas ainsi. Tu sais bien que je suis le seul coupable. Oui, je suis un misérable. Oui, j'ai commis une action infâme. Mais si je t'ai trompé, c'est que je t'aimais. C'est que mon respect pour toi était sans bornes, comme mon amour. C'est que je savais bien que tu mourrais plutôt que de devenir ma maîtresse. Et vous ne vous trompiez pas, Raoul, puisque vous le voyez, j'ai été votre maîtresse, et à cause de cela, je veux mourir. Mais puisque tu dis que tu me pardonnes... Oh oui, je vous pardonne, et de toute mon âme, Dieu le sait, Dieu le voit. Quand on pardonne, on a pitié, on ne punit pas, et tu veux me briser le cœur. Je veux vous rendre à cette autre femme, à qui vous appartenez légitimement. Oh, ne me parle pas de cette femme, ne me parle pas de cette infâme créature qui ne vit que pour mon malheur et pour ma perte. Vous êtes son mari, Raoul. Entre elle et vous, je suis un obstacle. Rien ne doit séparer ce que Dieu lui-même a uni. L'obstacle doit disparaître, et je vous le répète, je n'ai pas le droit de vivre. Ainsi, c'est volontairement que tu meurs ? C'est volontairement, oui, Raoul. Mais ne sais-tu donc pas que Dieu n'a permis à aucune de ses créatures de disposer de sa vie? Ne sais-tu donc pas que le suicide est un crime? Je le sais, mais je vous l'ai déjà dit. J'espère que Dieu me pardonnera ma mort. Et te pardonnera-t-il aussi la mienne? S'écria Raoul en saisissant un des pistolets qu'il portait au ceinturon de son épée. Jeanne se souleva sur son coude et balbutia avec une expression de profond effroi.
Raoul! Raoul!
Au nom du ciel, que voulez-vous dire? Je veux dire que si tu meurs, je mourrai le premier. Je veux dire que je jure, par mon amour et par mon désespoir, de me briser le crâne, là, sous tes yeux, si tu ne me jures pas de vivre. Et joignant le geste aux paroles, Raoul arma son pistolet, mit le doigt sur la détente et appuya contre son front l'extrémité du canon.
Eh bien, oui,
s'écria la jeune femme, enfin vaincue par son épouvante et par cette suprême preuve d'amour.
« Eh bien oui, je vivrai, mais au nom du ciel, ne te tue pas. »
Raoul laissa tomber son arme, puis saisissant Jeanne dans ses bras, il l'appuya contre sa poitrine avec ardeur. « Et maintenant, » demanda-t-il, « dis-moi bien vite ce qui te tue. Est-ce le poison ?»«
Non, »
répondit Jeanne en baissant ses grands yeux.
« Et qu'est-ce donc ?»
La jeune femme hésita pendant une seconde. Ensuite, elle répondit, ou plutôt elle balbutia,
« C'est la faim.
La faim ? Répéta Raoul atterré.
Oui, depuis 3 jours, depuis le moment où j'ai quitté ta demeure. Je n'ai pas mangé.
Oh, malheureuse, malheureuse enfant ! Dit Raoul en se meurtrissant le front et en replaçant Jeanne sur le lit. Puis il saisit la petite lampe, s'élança hors de la chambre, traversa le couloir, et ouvrant une fenêtre qui donnait sur le jardin, il cria à Jacques, déjà étonné et presque effrayé de la longue absence de son maître.
« Monte à cheval, cours à la plus prochaine maison, frappe jusqu'à ce qu'on s'éveille, propose de l'or, tout l'or que tu as dans tes poches, pour un morceau de pain et une bouteille de vin. Et si l'on ne veut pas t'ouvrir, et si l'on ne veut pas te vendre, enfonce la porte et prends de force ce qu'on t'aura refusé. Il y va de la vie et de la mort, va donc, et s'il le faut, tue ton cheval. »
« J'y vais, monsieur le chevalier, j'y vais !»
répondit Jacques, qui déjà courait de toute la vitesse de ses jambes vers le fond du jardin. Une minute après, Raoul entendait l'impétueux galop d'un cheval s'éloigner dans la direction de Bougival. Monsieur de la Tremblay revint alors auprès de Jeanne. Épuisé par les émotions qui venaient de succéder à 3 journées de jeûne meurtrier, la pauvre enfant semblait évanouie, et c'est à peine si une respiration faible et irrégulière soulevait à de longs intervalles sa poitrine amaigrie. Ses paupières s'étaient refermées sur ses grands yeux, et si la pâleur du marbre pouvait augmenter, nous dirions qu'elle était encore plus pâle qu'au moment où Raoul était entré dans sa chambre pour la première fois. Il s'agenouilla de nouveau devant le lit, et il approcha sa bouche de l'une des mains de la jeune femme. Jeanne sentit une larme brûlante tomber sur cette main, qu'elle eut la force de soulever et d'appuyer contre les lèvres de Raoul. Quelques minutes se passèrent ainsi. Le cœur trop plein de monsieur de la Tremblay ne lui permettait pas de prononcer une seule parole. Et d'ailleurs, dans l'état d'épuisement où se trouvait Jeanne, mieux valait ne point la forcer à lui répondre. Le bruit du galop qui s'était perdu dans l'éloignement se fit entendre de nouveau et se rapprocha. Jacques revenait. Raoul prit la lampe et descendit pour ouvrir la porte qui donnait sur la rue. Chapitre 33. La fuite. Au moment où cette porte tournait en grinçant sur ses gonds rouillés, Jacques descendait de cheval et attachait sa monture à un anneau de fer scellé dans la muraille.
« Alerte, monsieur le chevalier » cria-t-il. « Alerte ! C'est le bon Dieu qui a voulu que vous eussiez besoin de m'envoyer là-bas. »«
Qu'y a-t-il donc ? » demanda Raoul stupéfait.
« Pas un mot, pas une question. Montez, prenez madame, portez-la, sautons à cheval et fuyons. »
L'accent impératif du valet parlant à son maître indiquait mieux que toutes les explications du monde l'imminence du péril. Raoul n'interrogea pas, mais il obéit. En 3 élans, il était au premier étage et dans la chambre de la jeune femme. Il prit Jeanne entre ses bras et, chargé de ce léger fardeau, il descendit plus rapidement encore qu'il n'était monté. Jacques l'attendait, tenant les 2 chevaux par la bride.
« Monsieur le chevalier, lui dit-il, fermez la porte, mais n'éteignez pas la lumière. En voyant ces clartés intérieures, ils croiront qu'il y a du monde dans la maison. Ils perdront du temps à forcer la porte, et cela nous donnera de l'avance. »
Raoul fit ce que Jacques lui disait de faire. Le valet reprit. « Mettez-vous en selle, monsieur le chevalier, et je vous donnerai madame. » Et en effet, il souleva Jeanne et la coucha en quelque sorte sur le bras gauche de Raoul, qui prit les rênes de la main droite. La tête de la jeune femme reposait doucement sur la poitrine de monsieur de la Tremblay. « Maintenant, poursuivit Jacques, qui venait de sauter à cheval,
à fond de train, monsieur le chevalier, à fond de train. Mais d'abord, penchez-vous et écoutez. »
Raoul prêta l'oreille. On distinguait, venant du côté de Bougival, une rumeur sourde et grandissante, composée de plusieurs bruits différents. C'était le roulement d'un carrosse, le galop de plusieurs chevaux, un cliquetis d'armes.
« Vous entendez ?» demanda Jacques.
« Oui.
Je vous expliquerai tout. Partons. »
Raoul et Jacques éprenèrent leurs montures et s'éloignèrent rapidement, en ayant soin de suivre les côtés gazonniers du chemin, afin d'éviter la sonorité et les étincelles produites par les sabots ferrés, frappant la route dure et caillouteuse. Au bout d'une demi-heure de course non interrompue, ils se trouvaient tout près de la montagne que couronne Saint-Germain. À leur droite, ils avaient toujours la Seine, et à leur gauche, la lisière de Grand Bois, aujourd'hui disparue, qui allait rejoindre la forêt de Marly-le-Roi. Raoul ralentit aussitôt l'allure de son cheval.
« As-tu le pain et le vin ? » demanda-t-il à Jacques.
« Oui, monsieur le chevalier. »
« Alors, entrons dans le bois. Si l'on nous poursuit, nous devons avoir déjà une énorme avance, et quelques minutes d'arrêt ne sont rien. » Les deux hommes poussèrent leurs chevaux dans le fourré, et Jacques tendit à Raoul un petit pain et un flacon de vin. Raoul approcha le flacon des lèvres de la jeune femme, et lui fit boire une gorgée de son contenu.
« Ah, c'est la vie !» balbutia Jeanne. « C'est la vie !»
Raoul brisa le pain en plusieurs morceaux et donna à la pauvre affamée le plus petit de ses morceaux.
« Mange lentement, chère et bien-aimée, » lui dit-il en même temps.
« Après un jeûne de 3 jours, rien au monde ne serait plus dangereux que de se hâter trop. »«
Encore, encore un peu !» répondit Jeanne, à qui ce commencement de nourriture faisait sentir plus violemment sa faim.
Raoul lui donna un second morceau de pain et lui fit boire une nouvelle gorgée de vin.
« Encore, encore un peu !» murmura Jeanne pour la deuxième fois.
« Dans 1 heure, ma chérie !» répondit tout bas Raoul en effleurant de ses lèvres la petite oreille de la jeune femme.
« En ce moment, c'est assez !»
Les deux cavaliers regagnèrent la route et reprirent leur marche rapide. Mais bientôt, ils atteignirent la terrible montée de Saint-Germain qu'il n'était possible de gravir ni au galop, ni au trot. Et Raoul profita de ce ralentissement forcé dans l'allure de leurs chevaux pour interroger Jacques.
« Monsieur le chevalier, répondit ce dernier, voici ce qui s'est passé, et jamais personne ne m'ôtera de l'esprit que c'est un miracle, un vrai miracle qu'a fait le bon Dieu pour nous sauver tous. Vous souvenez-vous d'avoir remarqué, presque en face de la machine de Marly, une petite maison sur le bord de la route, toute seule, sous de grands arbres ?»«
Oui, dit Raoul. » Au-dessus de la porte de cette maison, continua Jacques, il y a un paquet de branches de houx, ce qui veut dire que c'est un cabaret. Je descendis de cheval et je frappai, bien convaincu qu'on serait longtemps sans me répondre. Eh bien, pas du tout. Au premier coup, on m'ouvrit. Il y avait de la lumière dans l'intérieur et 2 personnes. Un gros homme, qui tenait encore le loquet de la porte, et un petit garçon de 12 à 15 ans, endormi sur une chaise au coin de la cheminée. Je tenais mon cheval de la main gauche, de la droite, je tendis un écu au gros homme en lui disant « Donnez-moi du pain, mon brave, et du vin dans une bouteille. »«
Tout de suite, répondit-il, mais est-ce que vous n'entrez pas ?»«
Non, non, je n'ai pas le temps, repris-je. »«
Vous êtes de la bande des gens de justice, pour sûr, » fit-il en allant prendre un pain dans la huche et une bouteille dans le buffet.
Ces mots « gens de justice » me firent dresser l'oreille. À tout hasard, je répondis «
Oui, parbleu, j'en suis. »
Il revenait avec le pain et la bouteille, et en me les donnant, il me demanda «
L'affaire tient toujours pour cette nuit ?»«
Toujours ?» J'aurais voulu en savoir plus long, mais dans le trouble de mon esprit, je ne trouvais pas de manière adroite de l'interroger. Heureusement, il ajouta
« Tenez, voilà mon fieu Nicolas, qui dort là sur cette chaise et qui doit conduire toute votre bande au petit Chastel, à la maison des dames de Chambard. » « On lui donnera un écu pour ça !»
J'en savais assez. D'un bond, je me remis en selle.
« Et votre monnaie ?» me dit le gros homme. « J'en fais cadeau, fieu Nicolas. »« Eh bien, vous êtes un bon compagnon, vous. Je boirai un coup à votre santé. »«
Merci !» J'allais partir. Le gros homme se pencha en dehors de la maison.
« Tenez, tenez » dit-il. « Voilà vos gens qui arrivent. Le carrosse, les exemples, les cavaliers de la maréchaussée. » Les entendez-vous ?
Très bien.
Vous ne les attendez pas ?
Non, je ne suis pas à mon poste ici, et j'y cours. Ne dites pas que vous m'avez vu, vous me feriez casser.
Dormez tranquille, ni vu, ni connu.
J'avais acheté la discrétion de ce brave cabaretier avec la monnaie d'un écu de 3 livres. Je lançai mon cheval ventre à terre.
Monsieur le chevalier, c'est le reste.
Raoul lâcha la bride qu'il tenait, nous le savons, de la main droite. Il saisit la main de Jacques et il la serra, malgré la respectueuse résistance de ce dernier.
« Mon ami, lui dit-il, tu nous as sauvés. »«
Ah, monsieur le chevalier, murmura Jacques, ne me dites pas cela, sinon vous allez me faire pleurer comme un veau. »«
Brave cœur, continua Raoul, si jamais j'atteins le bonheur, je t'en ferai largement ta part. » Pendant le récit qui précède,
les cavaliers étaient arrivés au sommet de la montée de Saint-Germain, et ils se trouvaient auprès de ce château célèbre dont Louis XIV avait offert l'hospitalité à Jacques II. Là, toute trace de danger disparaissait pour les fugitifs, car Raoul et Jacques pouvaient quitter enfin la grande route, et ils connaissaient dans la forêt des chemins qui, depuis Saint-Germain, conduisaient au château de la Baume. Or, en admettant que les gens de police eussent suivi leurs traces jusque-là, il était aussi impossible de continuer de nuit la poursuite dans l'inextricable réseau des chemins se coupant et se croisant que de décrocher une étoile du ciel. Raoul pensa donc qu'il pouvait sans imprudence laisser souffler les chevaux fatigués par une course déjà longue et donner à Jeanne un peu de nourriture. Ensuite, il se remit en marche, mais à une allure plus modérée. Il pouvait être 4 heures du matin, et déjà une lueur indécise commençait à rendre transparent, du côté de l'Orient, les voiles sombres de la nuit, quand nos cavaliers sortirent de la forêt. En face d'eux, à quelques milliers de pas, on distinguait confusément une grande masse noire, de forme étrange et presque fantastique. Cette masse noire était le but auquel tendaient les fugitifs. C'était le château de la Baume.